Duncan Arrivas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur international du patronat israélien. Le sultanat d'Oman va ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs aériens, permettant de facto aux civils israéliens de le survoler. Alors pour commencer, on parle d'un gain de temps de 3 heures dans les voyages direction l'Asie. C'est une excellente nouvelle pour les Israéliens.
Bah, écoutez, je dois dire que même personnellement, ce matin, je suis revenu d'Inde et j'ai été obligé de m'arrêter à Dubaï pour changer en correspondance. Donc ça m'a pris entre 7 et 8 heures. S'il y avait eu des vols directs entre Israël et l'Inde qui peuvent passer par-dessus Dubaï, ça aurait raccourci mon voyage de 3 ou 4 heures. Mais c'est pas mon problème personnel. Je pense qu'effectivement, cela ouvre un nouvel horizon pour tout ce qui est les transports et de personnes, mais de marchandises également, d'Israël vers l'Est, c'est-à-dire vers les pays qui sont aujourd'hui des pays porteurs de croissance, et Israël est en train de développer ses relations avec ces pays, l'Inde en l'occurrence, mais pas seulement l'Inde. Il y a des pays qui sont, et vraiment Bangkok est une destination également préférée pour les touristes israéliens, et certainement cela va faciliter les transports. Les Philippines, c'est vraiment un pays qui, il y a que l'année dernière, pour la première fois, Israël a mis un attaché commercial à Manille, justement parce que le développement économique aux Philippines a justifié l'ouverture d'un bureau d'expansion économique israélien, et l'Asie, d'une façon générale, est aujourd'hui un moteur de croissance pour les exportations israéliennes. Donc l'ouverture des lignes aériennes entre Israël et les pays à l'est d'Israël est une très très bonne nouvelle, effectivement, aussi également pour la compagnie aérienne israélienne qui jusqu'à présent avait une concurrence avec d'autres compagnies qui, elles, pouvaient, oui, survoler le territoire de Oman et le territoire Arabie Saoudite et venir en Israël. Cette fois-ci, il y aura notamment une concurrence loyale entre El Al et les autres compagnies aériennes qui assurent ce trafic.
Vous avez parlé de plusieurs pays asiatiques. Cela va vraiment ouvrir l'Asie aux touristes israéliens ?
Oui, c'est-à-dire le tourisme israélien, comme vous le savez, j'ai des chiffres devant moi qui viennent d'être publiés de combien, par exemple, de touristes israéliens sont partis dans les Émirats. Alors c'est vrai que les Émirats, il y a déjà, je dirais, une correspondance qui se fait, mais on parle en 2022 de plus d'un demi-million d'Israéliens qui ont visité les pays du Golfe, donc Bahreïn, Abu Dhabi et Dubaï. Maintenant, aujourd'hui, les Israéliens regarde vers l'Est pour le tourisme. L'Inde est une destination préférée pour les jeunes Israéliens. Certainement, après le Covid, les choses sont en train de reprendre. Le Japon, par exemple, une fois de plus, dans quelle mesure est-ce que les vols, pour le Japon, d'habitude, ils passent plus par le Nord, mais également peuvent être influencés positivement. La Corée est une destination aussi qui devient au niveau des affaires, puisqu'il y a également un accord de libre-échange qui est rentré en l'année dernière entre Israël et la Corée du Sud, évidemment, ce qui fait que les échanges sont en train de grandir, d'autres pays qui sont comme le Vietnam, par exemple, qui également est une destination préférée et pour les hommes d'affaires et pour les touristes israéliens. Donc vous voyez que cela ouvre vraiment des horizons nouveaux et pour les touristes israéliens et pour les hommes d'affaires, et il faut penser aussi que ça facilite la venue des hommes d'affaires étrangers asiatiques en Israël. C'est beaucoup plus facile pour eux maintenant de venir directement en Israël plutôt que d'avoir à faire escale ou à passer ou par l'Europe ou à s'arrêter au Golfe. Cela aussi facilite la venue des hommes d'affaires asiatiques en Israël.
Justement, vice-versa, vous parlez des hommes d'affaires, cela va aussi ouvrir le tourisme en Israël pour les Asiatiques ?
Oui, sauf que, comme vous le savez, Israël est un pays cher. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y aura, on voit qu'il y a plus de touristes qui viennent. Par exemple, des touristes japonais, des touristes coréens, puisque vous savez qu'un tiers de la population au Coran sont de confession chrétienne. Donc, pour revenir en Terre Sainte, c'est une chose qui est importante. Et je pense qu'effectivement, on verra plus de touristes asiatiques venant en Israël, mais là aussi, vous savez, après le Covid, les choses reprennent lentement dans certains pays, et je pense que En fait, l'avenir est très positif à ce niveau-là.
Vous en avez un petit peu parlé au début de notre entretien, c'est une vraie opportunité pour créer de nouveaux partenariats commerciaux pour Israël.
Oui, pour en fait solidifier et renforcer les je dirais le partenariat commercial et économique. L'Asie en général était un partenaire qui n'était pas, je dirais, n'était pas à la une des hommes d'affaires israéliens. Les hommes d'affaires israéliens, l'économie israélienne était beaucoup plus orientée vers l'Europe et vers l'Amérique du Nord. Mais dans les 10-15 dernières années, on voit de plus en plus des ouvertures vers les pays asiatiques. Et quand on compare les chiffres des exportations israéliennes ou même des investissements étrangers, que ce soit des investissements japonais, par exemple, l'année dernière, les investissements japonais en Israël ont été chiffrés à plus de presque 3 milliards de dollars, ce qui a battu tous les records. Donc on voit très bien que au niveau et du commerce et des investissements et du tourisme, Israël s'ouvre de plus en plus et s'oriente de plus en plus, pas pour remplacer nos relations très bonnes avec les États-Unis, avec l'Europe, mais pour rajouter encore un chapitre dans nos relations internationales.
Selon vous, doit-on voir dans cette annonce un rapprochement entre le sultanat d'Oman et Jérusalem ou ça n'a aucun rapport?
Écoutez, je pense qu'effectivement cela fait partie d'un changement qui est dû en grande partie aux accords d'Abraham, c'est-à-dire à cette normalisation avec les pays du Golfe. C'est vrai que on parle beaucoup plus de l'Arabie saoudite étant le, je dirais, la pièce de résistance, si je puis dire, dans la région. Pour l'instant, on n'a pas encore normalisé avec l'Arabie saoudite. Oman, il y a eu des hauts et des bas dans nos relations avec eux, mais certainement la décision prise par le gouvernement d'Oman est un bon signe dans justement des pas qui se font pour petit à petit normaliser les relations avec Israël. C'est-à-dire, ça ne se fait pas en un coup, ça se fait graduellement, et je pense qu'effectivement, ce qui a été déclaré par le gouvernement d'Oman est encore un pas qui peut nous rapprocher d'une normalisation. Quand cette normalisation aura lieu, personne ne le sait encore, mais nous sommes dans la bonne direction. De même avec l'Arabie saoudite, où là aussi on voit de temps en temps des petits pas qui se font, par exemple, permettre la participation d'hommes d'affaires israéliens à des conférences économiques avec des passeports israéliens. Tout ça, ce sont des petits pas qui montrent à quel point la région a pris conscience du fait que on ne dépend plus, c'est-à-dire développer les relations entre Israël et les pays arabes ne dépend plus nécessairement de faire avancer le problème israélo-palestinien. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut faire également avancer le problème israélo-palestinien, mais la résolution du problème israélo-palestinien n'est plus un otage, où les pays arabes ne sont plus pris otage par la résolution du problème israélo-palestinien pour normaliser avec Israël. Donc on voit certainement que les choses avancent avec le Maroc également, avec le Soudan, on voit qu'effectivement les choses se développent de façon très positive.
Pour finir avec cette ouverture de l'espace aérien du sultanat d'Oman, peut-on penser que l'aéroport Ben Gurion a les moyens de devenir un hub international?
Écoutez, je dirais logiquement, si on regarde la carte, et ça pas d'aujourd'hui, mais vous savez, il y a des cartes encore de Moyen-Âge qui placent la Terre Sainte au milieu des trois grands continents de l'époque, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc c'est vrai qu'au niveau purement géographique, nous sommes au centre de ces trois continents, mais pour servir de hub, comme on dit, ou servir de place tournante, il faut avoir également les infrastructures nécessaires. Et pour l'instant, les infrastructures israéliennes, l'aéroport de Lod, je pense, arrive très rapidement à remplir ses capacités. Il faut l'élargir, et donc ce n'est pas, mais certainement, si on regarde la carte une fois de plus et si on voit le développement possible des relations dans la région, pourquoi pas? Pour l'instant, il y a d'autres candidats, les pays du Golfe, en l'occurrence Dubaï et Abu Dhabi, essayent eux de se positionner comme étant le centre de gravitation de la région. Il y a Istanbul, qui également est un centre très important, un hub aérien très important, mais je pense que on peut très bien envisager que dans les années à venir, les relations se développent de façon positive avec nos voisins et de petit à petit, l'aéroport de Ben-Gurion qui est bien placé pour effectivement servir de plaque tournante pour les trois continents. Mais ça, ça fait partie des visions à venir. Mais comme vous savez, en Israël, il faut toujours avoir être optimiste et penser à l'avenir. Et c'est certainement quelque chose de possible.
Dan Katarivas, je rappelle que vous êtes directeur international du patronat israélien. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci à vous.